en tout cas, les ouvrages des offices. D'ailleurs, ça doit être affiché aussi, à l'entrée là-bas. Non, j'ai bien dit ça mardi. J'ai eu tout le réglage, c'est mardi soir. Non. Et mercredi, c'est pourri.
Oui. C'est ça. Mais mardi, il n'y a pas de cours ici.
Non, mais je vous indique les horaires de la lecture de Megilla. C'est bien ce que vous m'avez dit. Voilà, alors vous avez l'office de Mincha à 5h30 le mardi. Et le mercredi matin, Shachrit à 7h, la Megilla vers 8h moins quart. Voilà, j'espère que je vais pouvoir parler un peu plus fort. Donc là, voilà, nous sommes au chapitre 27, à partir du verset 20. Vous n'entendez pas. Deux minutes que ça se range. Qui va dans le sens de ce qu'on a étudié la semaine dernière et que je vais vous rappeler brièvement. C'est pas la peine de reprendre deux versets. Nous avons vu que, en particulier, en ce qui concerne toutes les prescriptions concernant la construction du tabernacle, du Mishkan, et qui donc préfigure le Beth Amikdash, qui est le temple de Jérusalem, il y a une relation entre Moïse et le peuple, qui est mise en évidence par la manière dont les prescriptions transmises à Moïse ont été faites. Et je rappelle brièvement le principe. Dieu ne demande pas à Moïse d'ordonner au peuple l'ensemble des mitzvot concernant le fait d'avoir à rassembler les matériaux nécessaires pour la construction du tabernacle. Parce qu'il y a de valeur dans la construction de ce tabernacle, et nous le verrons de différentes manières aujourd'hui, que dans la mesure, c'est dit très clairement dans le verset, où il y a de manière autonome, spontanée, une, ici me manque un mot en français, une nedava, un acte qui consiste à donner, à partir de la générosité du cœur, nidvatlev, c'est-à-dire que la vertu, en fin de compte, n'a de valeur ultime, réelle, essentielle, que dans la mesure où elle est voulue par l'homme lui-même. Or, voilà que Moïse, d'autre part, est censé être celui qui est chargé de transmettre les prescriptions de la loi à Israël. Et c'est très important de comprendre, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui plus essentiellement, pourquoi cet enseignement que l'obéissance à la loi ne trouve sa valeur ultime que dans la mesure où il y a quelque chose qui est au-delà de l'obéissance, le fait de vouloir par soi-même ce que la loi veut. Pourquoi ce principe qui va nous montrer la grandeur de Moïse, comme on a déjà commencé à l'étudier la semaine dernière, est transmise précisément, particulièrement, à travers les lois de la construction du Mishkan, du tabernacle. Laissez ouvert là-bas. Je vous rappelle brièvement le verset pour revenir à cette mise au point. Asseyez-vous, je ne peux pas parler si vous êtes debout. Ben, il avait rassemblé le manche et les morts, et Dieu parla à Moïse, les morts, pour dire, regardez bien, ça c'est dans la passage de Trouma, regardez bien la différence des mots employés. Ben, il avait rassemblé le manche. Et ce que Dieu a dit à Moïse, d'après ce que dit ce verset, la Torah ne nous dit pas ce qu'il lui a dit. Il lui a parlé. Vaïdaber Hashem el Moshe. Les morts pour dire. Bien entendu, le sujet de les morts est apparemment pour que Moïse dise. Mais il y a une lecture un peu plus fine d'après les accents des Tahamim. Ceux qui sont au courant des accents, vous pouvez avoir le verset Vaïdaber Hashem el Moshe. Et Dieu parle à Moïse, c'est une unité de lecture. Vaïdaber Hashem et Dieu parle, c'est une unité de lecture. Regardez, sous Vaïdaber Hashem, il y a Ma'arir Tavra. Je ne me rappelle plus aujourd'hui les intitulés des accents dans le rite Ashkenaz, c'est Tipha, qui se rappelle. Sous Vaïdaber, vous avez un Mouna. Ah, Mécha. Bonjour, bien, Sfarad. Vaïdaber, vous avez Ma'arir, Hashem, Tavra. Ça fait une unité de lecture de ces deux mots. Et Dieu parla. El Moshe les morts, Ma'arir, sauf Pasuk. À Moïse pour dire. Et donc, on peut lire de deux manières. Soit que Dieu dise ce qu'il a à dire à Moïse pour que Moïse dise aux enfants d'Israël, ce qui est l'objet de cette révélation. Donc, il va s'agir dans le contenu des lois concernant la construction du tabernacle. Et je vais y revenir. Une deuxième manière de lire, c'est que Dieu a parlé à Moïse jusqu'à ce qu'il puisse dire ce qu'il avait à lui dire et que Moïse comprenne. Est-ce que c'est clair la différence? Que Dieu a parlé à Moïse juste qu'on arrive au fait qu'il puisse, les morts, qu'il puisse dire d'Aver ben Israël, Bichwelecha. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'apportent, et il s'agit des matériaux pour la construction du tabernacle. Ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que Moïse se trouve devant une mission très difficile, qui est en général, je banalise un peu, celle de l'éducateur, quel que soit le type d'éducation. Le premier type d'éducation étant celui des parents, d'ailleurs, qui est que il doit s'effacer complètement, et son génie entre la loi et celui à qui il transmet la loi, son génie consiste à faire que celui à qui il parle veuille de façon autonome par lui-même ce que la loi demande. Il y en a deux niveaux complètement différents de la relation à la valeur. La valeur se présente à nous d'abord comme hétéronome, c'est-à-dire s'exprimant à nous du dehors de notre conscience, comme quelque chose qui est un commandement qui vient d'ailleurs. Alors, on peut employer le terme de quelque chose de transcendant. Mais je préfère le vocabulaire habituel de hétéronome. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai inventé la Torah. La Torah s'adresse à moi dans la perspective du commandement qui vient de l'extérieur. Et cependant, Moïse, qui me transmet cette Torah, a pour objet, a pour fonction de faire que je veuille de moi-même ce que la loi veut. J'espère que c'est suffisamment clair. Parce que c'est à ce deuxième niveau seulement que la vertu prend sa valeur réelle. Lorsque c'est moi qui veux ce que veut la loi. Et il y a là toute une dialectique qui est extrêmement importante à comprendre pour les éducateurs. Il y a évidemment un premier stade où la loi est transmise de l'extérieur comme un commandement. Mais il y a un deuxième stade où la loi est transmise, et c'est ce qui va nous être enseigné dans la paracha de cette semaine, ensuite à ce principe, où la loi est transmise comme une formation, comme un enseignement, qui fait qu'en conséquence, celui qui reçoit cet enseignement, cette formation, veut par lui-même ce que la loi veut. Il y a là le mystère de la relation entre Israël et la Torah. Parce que d'une certaine manière, ça consiste à dire qu'Israël, c'est une des manières d'être homme, capable de réinventer par lui-même ce que la Torah va lui révéler. Je parle un peu lentement parce que je ne voudrais pas employer des mots trompeurs. J'espère que c'est suffisamment clair. C'est un enseignement du Or HaChaim qui indique cela. Le mystère de la Torah, c'est qu'elle s'adresse à Israël. Le mystère d'Israël, et vous savez à quel point j'aime pas ce mot de mystère, mais j'emploie quand même le français. Le mystère d'Israël, c'est qu'Israël est capable de recevoir la Torah. Mais ça veut dire à la limite, c'est qu'il est capable de par lui-même, s'il était au niveau où était Moïse, il est capable de par lui-même de comprendre ce qu'on lui dit, donc de savoir ce qu'on va lui dire à l'avance. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Et je vais vous dire comment le Or HaChaim. Ça y est, c'est clair ? Non, j'espère pour tout le monde. Je voudrais entendre répondre, si ce n'est pas clair. Vous m'émerveillez. Mais je vous dis comment le Or HaChaim enseigne cela. C'est à propos de la paracha de Chukat. Zot Chukat HaTorah. Donnez-moi la suite du verset. Ma non. Si je vous demande le verset, c'est que c'est pas ça. Zot Chukat HaTorah. Non, pas celui-là. Prends-moi le livre. La paracha de Chukat. Non, il faut. Non. En attendant, je vous raconte une histoire. Et pourquoi il faut toujours voir comment c'est écrit dans le livre. Un jour, un rabbin m'a fait une dracha très très belle, qui durait des heures, sur un verset faux. Ah voilà, c'est ça. Zotro Katatora, cher Tiva Hachem Lemon, d'Abel Benis. Je reviendrai ça, je vous finis l'histoire. Il y a un verset dans les psaumes qui dit Shomer Kalasmotav Ahai Meena Nishbara. Que Dieu préserve tous mes os. Atzamot, c'est plus que les os, l'essence. Aucun d'entre eux ne se trouve brisé. Le premier mot, c'est Shomer. Le rabbin avait lu Shomer. C'est très joli. Il brise tous mes os et aucun d'entre eux n'est brisé. Alors imaginez la dracha qu'il a pu faire là. Et au bout de 2 heures, un élève prend le courage de se lever. Il dit, mais il y a écrit Chauvert, il y avait écrit Chauvert. Alors le rabbin a juré, c'était pas moi, hein. Le rabbin a juré qu'il citerait jamais un verset sans tirer le livre. Voilà, vous avez compris. Alors voilà ce que dit le verset. D'autant plus j'étais en train de parler de la capacité d'Israël d'inventer la Torah. Voilà le verset. Zot Chukat HaTorah, chapitre 19, verset 1, dans le Deutéronome. Voici le statut de la Torah. Chukat, c'est l'ordre des choses qui est le fondement, le postulat de la législation de la Torah. Ça veut dire que la Torah a un principe que le Or HaChaim va expliquer en termes de mystère. Zot Chukat HaTorah, cher Tiva Hachem Lemon. Voici le principe de la Torah que Dieu a ordonné en disant, de pas ouvrir les guillemets, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent. C'est la vache rousse, ok, Paradouma. Mais il y a d'ailleurs la même forme sur laquelle je peux revenir avec la trauma. Alors apparemment la lecture est simple. Voici le principe de la Torah que Dieu a ordonné en disant, parle aux enfants d'Israël et que ils réalisent le souhait que je vais formuler. Alors le Or HaChaim m'explique. Quel est le principe de la Torah ? Ce mystère de la Torah, la chouka de la Torah, c'est que Dieu a ordonné en disant par aux enfants d'Israël. C'est ça le mystère de la Torah. J'espère que c'est assez clair. Okay ? C'est-à-dire, vous vous rappelez de... Ça, vous allez vous rappeler, les anciens. Le kaddish de Kedushat Levi, le Rav Yitzhak Levi de Berditchev. Vous vous rappelez de ce kaddish ? Vous ne connaissez pas ça ? C'est un kaddish qu'un très grand d'Israël, Rabbi Yitzhak Levi de Berdichev, avait formulé au moment des grandes persécutions en Europe. Et puis, il convoque Dieu devant le Bedin en disant « Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu as avec ton peuple Israël ?» Dans ta Torah, il y a écrit « Parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, demande aux enfants d'Israël. » Il n'y a que les enfants d'Israël dans le monde, et les Russes, et les Allemands, et tous ces empires illicites l'un après l'autre. Ça n'existe pas. Et alors, qu'est-ce que tu as avec ce peuple? Alors Dieu qui lui répond finalement, tu veux que je m'occupe des autres? Alors le rabbin qui à la fin de son cadet dit, non, occupe-toi d'eux. J'ai pas compris pourquoi, mais occupe-toi d'eux. Vous avez compris à peu près ce qu'il y avait dans ce cadet. Effectivement, il y a un mystère. Je crois que c'est ça qu'a indiqué le Vahim. On peut tout comprendre dans la Torah, mais il y a une chose qui reste un résidu à expliquer, pourquoi c'est à Israël que la Torah s'adresse. Ce verset-refrain auquel on est tellement habitué, parle aux enfants d'Israël, enveloppe un mystère. Il faut expliquer chaque mot. Okay? Mais, surtout, l'indication du verset lui-même, ça concerne les enfants d'Israël. Et alors, je voudrais citer, oui, ça me fatigue de vous voir debout comme ça, entre vous assurés. Entrez-vous asseoir. J'espère qu'il n'y a personne derrière la porte. Il y a un enseignement de base du Rav Kook qu'il m'arrive souvent de frôler ou de citer, mais sans jamais vraiment le prendre à bras-le-corps. C'est que dans la culture contemporaine, on est habitué à l'idée du mérite en relation avec les actes, avec les bonnes actions. Le srout, le mérite, vient d'un certain comportement. Et on a perdu complètement de vue une catégorie du mérite propre à l'enseignement de la Torah, qui est un mérite d'être, qui s'attache à l'être, à une manière d'être, et non pas une manière d'agir. Non, elle va rentrer. Ne perdez pas de temps, asseyez-vous vite. Et je crois que la raison de cette réticence, c'est que dans la culture contemporaine, cela ressemble trop à ce qu'on pourrait appeler à la limite le racisme. Est-ce qu'il y aurait une identité particulière d'Israël qui fait que Israël a ce mérite d'être Israël et les autres pas? Je crois que c'est la raison de cette réticence, une sorte de refoulé qui vient de notre on a peur d'employer un vocabulaire que la Torah emploie de manière très claire à cause de cette mode culturel qui veut nier les différences des manières d'être dans l'humanité. Il y a une seule manière d'être homme, c'est d'être homme. Mais à l'intérieur de cette identité humaine universelle, il y a différentes manières d'être homme qui sont personnalisées. Et je n'ai trouvé dans la culture contemporaine qu'un penseur qui s'est attaqué à ce problème, c'est Emmanuel Mounier. Ça vous dit quelque chose? C'est le fondateur de la revue Esprit. C'est pas à cause de la revue Esprit, c'est une revue assez antisémite quand elle l'est. Mais c'est la fondation de sa philosophie, il s'appelle le personnalisme. Et je crois qu'il n'y a que chez lui que j'ai trouvé la reconnaissance de cette réalité. Eh bien, il y a, dit le Rav Kook, une sainteté naturelle dans la manière d'être Israël que nous devons au patriarche et qui n'a rien à voir avec les comportements, quel que soit le niveau des comportements, y compris morale, spirituelle, religieuse. Dans la littérature en langue française contemporaine, il y a un seul auteur qui a parlé de ça, et qui en a parlé de manière très claire, très brillante, c'est Livni. Comment est son prénom?
Abraham.
Abraham Livni, qui est décédé il y a quelques années déjà. Et Abraham Livni, je peux vous dire, puisque est-ce que sa femme est là?
Oui.
Oui, alors je peux le dire quand même. Abraham Livni était un très grand Talmid Chacham, venu du christianisme européen. Et puis, il a eu le courage de parler de cela. Il y a une sainteté naturelle de l'identité d'Israël qui n'a rien à voir avec les catégories habituelles de la notion de mérite que nous avons dans la culture contemporaine. C'est-à-dire une certaine manière de se relier à des idéaux, à des valeurs. La plupart du temps, on ne pratique pas, mais il suffit d'y croire, il suffit de s'en réclamer. Ce qui est en général l'idéalisme contemporain. C'est-à-dire, ça dérive de la conception grecque du problème moral. La morale ne peut pas être réalisée, elle ne peut être que contemplée. La vertu, c'est de savoir ce qu'est le bien, même si on ne le pratique pas. Je sais pas si, car là, je vous cite les Socratiques. Mais il y a un verset dans les évangiles, dans saint Paul, qui dit ça en clair. Hein. Attendez, je me rappelle, ça va vous étonner. Mais, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Une espèce de fatalité de la faute, de la chute, qui fait que la morale ne peut pas être pratiquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de trouver ça dans la conscience chrétienne, elle est dans l'âme grecque, qui a hésité entre l'optimisme hébreu et le pessimisme de Pascal, enfin qui est très bien formulé chez Pascal, et qui est le propre de la conscience chrétienne, qui est une conscience déchirée entre l'espérance apprise de la Bible des Hébreux et le pessimisme de la nature de l'homme. Bien, ceci pour dire que cette conception que la morale ne peut pas être pratiquée, mais la vertu consiste dans le fait de la contempler, et ça s'appelle l'éthique. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça. Peut-être à vous, je ne sais pas. Peut-être la dernière fois. Mais en tout cas, je voudrais vous demander de me dire d'où je suis sorti pour parler de ça. Quelle était la séquence immédiatement avant? Ça m'avait dérangé quand même. Ah oui. Il y a une Kedusha Tivéit. J'ai envie de dire, la première fois que j'ai rencontré le Rav Kook, il y a très très longtemps, on est arrivé vers 11h du soir à Jérusalem. C'était au temps où il y avait un tout petit chemin qui montait de Haïfa jusqu'à Jérusalem, 6 heures de route. Vous n'avez pas connu cette toute petite route-là, vous l'avez connue, oui, avec halte à Ramla. Et alors, on arrive, et puis, bon, le groupe d'étudiants que j'avais amené s'installe. Il s'est installé, si je me rappelle bien, c'était dans les années 50, peut-être même avant, Rechov Rashi, il y avait Ben Seirot Mizrahi, ça vous dit quelque chose, cet internat. Et puis moi, je suis resté pas très loin, dire mes respects au Rav Kook. C'était vers 11h du soir, on s'est quitté à 4h du matin, et il m'a fait étudier une seule chose. Qu'est-ce que c'est que Kedusha Tivéit, une sainteté naturelle? Moi, j'arrivais avec ma mentalité de Torah diasporique. La sainteté, c'est les mitzvot. La sainteté, c'est les actes qu'il acquiert. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a un premier niveau de sainteté dévoilée qui est acquise par les mitzvot. C'est un sujet où Maïmonide a enseigné de manière très claire. L'objectif des mitzvot, c'est la sainteté. Et la confirmation de cela, c'est la bénédiction que l'on dit en pratiquant ou avant de pratiquer chaque mitzvah. Hacher qui déchanou de mitzvotah, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Et il y a une lecture plus profonde qui signifie qui nous a sanctifiés en nous donnant ses commandements, avant même qu'on les pratique. Alors c'est ce niveau de sainteté naturelle dont le Rav Kook nous a parlé ce soir-là. Et puis, toute la Torah que j'avais appris jusque-là s'est complètement transformée en une nuit. Je crois que c'est important de vous donner cet exemple de cette expérience vécue, parce qu'il suffit parfois d'une catégorie pour remettre en place énormément de choses qui restent à l'état de chaos, enfin qui restent à l'état association assez arbitraire de Tlaï Algabetlaï. Pour ceux qui comprennent les mots, je ne vais pas rentrer dans une parenthèse. Et alors, effectivement, là, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais il y a un texte très clair dans les livres de Devarim, où Dieu dit à Israël, ne croyez pas que ce n'est pas à cause de vos vertus que je vous ai choisi. Ça commence par dire, ne croyez pas que c'est à cause de votre nombre, de l'empire. Vous rappelez le cadis du roi de Verlichel. Ne croyez pas parce que vous êtes une culture, un empire, comme on disait traditionnellement. Les Malchouïens. Il y a d'énormes empires, et il y a des traditions culturelles colossales, et ça continue. C'est pas pour ça que je vous ai choisi. Ne croyez pas que c'est pour votre vertu. Je vous ai choisi parce que vous êtes les descendants des patriarches. Et à ce propos, il y a énormément de sources qui vont mettre ça en évidence. En comparant Noah et Abraham, par coïncidence, qui n'est pas une coïncidence, je cherchais une référence à cela. Et ce matin, j'ai entendu, en me trompant de poste, une dracha du Rav Peretz dans le Kol HaNeshama, qui est la voix des Haredim. Il a fait une dracha extraordinaire, d'une beauté magnifique. Je ne plaisante pas. Et alors ça m'a donné la référence que je cherchais en pensant à cette idée. Premièrement, cela, la comparaison entre Noah et Abraham. La Torah nous dit les vertus de Noah avant de nous dire pourquoi Dieu le sauve. Et il y a toute une discussion sur les commentateurs. Est-ce que les vertus de Noah avaient vraiment suffi pour que ce soit lui qui soit sauvé? C'est un problème extrêmement vaste. Je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de l'étudier dans le commentaire du Shneur Rodabrit. Et en particulier le Rahim aussi. Alors pour Abraham, il n'y a aucune indication. Subitement, le texte nous parle de ce qu'on pourrait appeler, mais je refuse l'expression, l'homme entre guillemets, l'élection d'Abraham. Le fait qu'Abraham ait été élu, choisi, comme si c'était d'un arbitraire absolu. Il n'y a aucune justification dans le texte. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? En réalité, il y en a une. Mais ça ne va de soi que pour ceux qui la vivent. Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham était prêt à choisir Dieu. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est Dieu qui la décide, mais pas avec n'importe qui. Avec celui qui est prêt à contracter alliance avec Dieu. Ça le Midrash le restitue. Et d'où cela vient, cela, qu'Abraham est prêt à cela? Eh bien, c'est parce qu'il est hébreu. C'est ça ce que le texte dévoile. Il est le descendant de Héber. Il faut savoir qui sont les Hébreux et qui est ce Héber, l'ancêtre de cette identité dont il va être parlé dans l'histoire d'Israël. Je ne rentre pas dans ce sujet, mais je vous l'indique. La préface historique à la Torah est très claire. Elle raconte tout simplement l'histoire des Hébreux. Parmi toutes les familles humaines, il y en a une qui ne fait pas partie du nombre, ou Bagoïm ou Itrachab, et qui ne se préoccupe pas du nombre des Goïm, c'est Israël. Ça vient de l'identité hébraïque d'Abraham. Alors donc, ce n'est pas arbitraire. Il y a une raison. Il y a, d'autre part, un consensus dont nous profitons, nous qui sommes à la fin de cette histoire, 4000 ans, un consensus de l'universel humain qui est plus qu'étonnant, qui est massif. Le verset dit « Et se béniront en toi toutes les familles de la terre ». Je suis toujours stupéfait de voir à quel point c'est devenu une évidence. Comment l'Occident d'un côté avec la chrétienté, l'Orient de l'autre avec l'Islam, tout ce qui va avec et d'un côté et de l'autre, ça va de soi que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, que la bénédiction, c'est la bénédiction qui passe à Abraham. Mais au moment où Abraham apparaît dans l'histoire, qu'est-ce qui va de soi? Je crois que c'est une épreuve de la révélation. Ce que dit la révélation ne se vérifie que 4000 ans après. Enfin, ça s'est vérifié déjà depuis l'expansion du christianisme et ensuite de l'islam. Mais malgré tout, nous qui sommes à la fin d'une histoire très longue, n'avons aucun mérite de le percevoir ou d'y croire. Mais c'était les premiers qui entendaient ces promesses, qui ont eu le mérite de s'engager dans cette histoire. tellement vertigineux de voir le nombre de consciences à travers les siècles et les millénaires qui sont en consensus de se verser et se bénir en toi toutes les familles de la terre. C'est plein de rivalité, c'est plein d'ingratitude, c'est plein de tout ce que nous sommes obligés de supporter, mais c'est ça qui se réalise. Eh bien, il y a une identité humaine particulière. Je cherche un mot qui ne soit pas raciste, spécifique. Les Juifs, qui sont les héritiers des Hébreux, et parce qu'ils sont les héritiers des Hébreux, c'est l'identité hébraïque qui est en question ici. Eh bien, le monde entier reconnaît que c'est vrai. Mais il le reconnaît dans la défigure, il le reconnaît en mauvaise part, il le reconnaît dans l'antisémitisme, il le reconnaît dans l'universalité de l'antisémitisme. Voilà, et tout ça, c'est plein de mystères. Quand les Juifs s'interrogent « Pourquoi moi ?», il n'y a pas de réponse. Il faut comprendre comment ça a commencé. C'est-à-dire, il faut savoir qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob, pour comprendre de quoi il s'agit dans ces expressions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alors, je tenais à rappeler ça. Il y a une manière d'être qui, par essence, est sensible au fait de la Torah. C'est Israël. Et c'est une ligne de démarcation, un rideau de séparation très ténu, mais absolu, entre Israël et les nations. Puisque, là aussi, à l'intérieur de ce consensus dont je vous parle, il y a un branchement de l'universel humain sur la Bible des Hébreux, direct par la chrétienté, indirect à travers le Coran, par l'islam. Mais ce consensus a toujours été un consensus de contestation, en dénaturant le message de la prophétie hébraïque, et essentiellement sur ce point. Ce qui est en question dans la différence à tous les niveaux, théologique, philosophique, culturel, politique, historique, entre le judaïsme et le christianisme d'un côté, entre le judaïsme et l'islam de l'autre, c'est ce problème-là, la spécificité de l'identité d'Israël. Et elle est d'ailleurs un problème intérieur à Israël. Le nombre à l'échelle individuelle des membres du peuple d'Israël, les Juifs que nous sommes, qui sont imperméables à cela, ils sont insensibles à cela, et qui ne le sont que de manière négative, en réclamant d'être comme les autres. Et vous avez des grands passages dans Ézéchiel, en particulier, qui en parlent. Ces délégations qui vont voir Ézéchiel et qui lui demandent, va dire à ton Dieu, nous voulons être comme les autres. Eh bien, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est à la Knesset que ça se passe. Okay ? Eh bien, Dieu répond, je serai votre roi à la Pam, à la Hamatam. Ça veut dire, comment on peut traduire ça ? Que vous le vouliez ou pas. Et vous verrez comment ça se passe quand vous ne voulez pas. Et alors, que c'est ce mystère ? Ce mystère, il est là, et il est surtout, j'allais employer un mot qu'il ne faut pas, représenté, j'allais dire incarné, il est surtout représenté par Moïse, c'est-à-dire la capacité d'entendre la Torah. Et bien cette capacité d'entendre la Torah, ça ne vient pas de l'intelligence, ça ne vient pas des fonctions de la pensée, ça vient de l'âme, ça vient de la manière d'être, ça vient de cette kedusha divit, de cette sainteté naturelle que nous perpétuons depuis le temps des patriarches, et il s'agit à la racine d'identité hébraïque. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Je sens que je me demande, une minute à la fin, je sens que je me demande pourquoi je répète cela de différentes manières, parce que je sais par expérience que c'est tellement étranger à la culture contemporaine qu'il faut récupérer cela pour comprendre des enseignements qui, par la suite, sont importants pour eux-mêmes et qui, sans cela, apparaîtraient comme conventionnels, une espèce de sermon pieux, une espèce de connivence, de croyant, comme si ça va de soi. Alors ça ne va pas de soi. Il faut d'abord réinstituer ça. Alors attendez, avant de poser vos questions, si en fait, que je vous cite ces deux références que je dois au Rav Pérez. Je les avais en mémoire, mais il me les a particularisées. La première, c'est cette différence entre Noach et Abraham, dont j'ai parlé. Et encore une fois, le choix d'Abraham n'est pas arbitraire. La Torah a expliqué qui est Abraham en disant tout simplement qu'il est hébreu. Ça suffit si nous avons gardé la mémoire, mais l'humanité a gardé la mémoire pour savoir qu'il y a un cas particulier dans l'histoire des sociétés humaines, le cas particulier de la société hébraïque. Et puis, surtout ça vient du Maharal, ce que j'appellerais la situation des fiançailles. La relation entre les fiançailles et le mariage. On ne marie que des fiancés. Mais le mariage est une contrainte. Les fiancés se choisissent librement. Et c'est parce qu'ils se sont choisis librement qu'on leur impose le mariage. De telle sorte qu'il n'y ait pas de caprice à cause de la nature humaine capricieuse, querelle de ménage, va-t'en. Non, il y a le contrat de mariage. Et ensuite, quand la colère s'est calmée, oh, heureusement qu'il y a le contrat. Parce que si jamais ça se passait comme ça, ça se passe en islam d'ailleurs, la colère du mari suffit pour jeter la femme au diable, eh bien, on serait soumis à tous ces caprices de la nature humaine, tout simplement. Parce que c'est clair ce que je dis là. Combien de fois des époux qui, d'autre part, s'aiment réellement, eh bien, se mettent en colère, et au moment de la colère, c'est très réellement qu'on veut se séparer. La Gemara, vous étudierez ça dans le chapitre 3 de Gittin. La Gemara, avec une espèce de préscience, d'une science de la psychologie extrêmement profonde, diagnostique, quelles sont les formules où on se dit, on se sépare, qu'il faut prendre au sérieux, et celles qu'on ne doit pas prendre au sérieux. En particulier, tout ce qui ressemble à de la colère, puisque c'est le cas que je vous cite là. Et alors, il faut bien comprendre ça. C'est pas une façon de parler. On s'est donné sa confiance. Ça s'appelle les fiançailles. La fiance. Eh bien, et ça c'était libre. Mais à partir du moment où Dieu sait que c'est vrai, alors il impose le contrat. Le mariage, c'est un contrat. C'est la loi. C'est la loi hétéronome. Mais la loi hétéronome n'est imposée qu'à ceux qui sont prêts à la vivre volontairement, de façon autonome. Alors c'est Dieu qui a jugé qu'à un certain moment de l'histoire, cette société humaine-là était prête à recevoir la Torah par contrainte. Alors il la leur a imposée. Mais ce n'est pas à n'importe qui qu'on impose le mariage. On impose le mariage qu'aux fiancés. C'est un rythme du Maharal qui est très simple et très profond. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est parce qu'Israël était prêt à être Israël de la Torah que c'est à Israël que la Torah a été donnée. Donc il y a bien un mystère de l'identité naturelle, comment j'ai dit, sainteté naturelle, qui s'attache à l'identité israélienne et qui est indélébile, quel que soit le degré d'assimilation. C'est ça que je voulais ajouter. En utilisant cette fois la deuxième référence de la Racha du Rappel. Moi, j'étais depuis tout enfant habitué à cette idée, parce que je l'ai apprise dans le scoutisme. C'est Baden-Powell qui disait, vous savez que c'est Baden-Powell, chaque fois que vous allez dans une station de pompe à essence, BP, ça me rappelle. Alors il disait, dans tout homme, il y a 5% de bien enfoui dans son cœur, il suffit de réveiller la flamme. Et alors, c'est tellement vrai par rapport à l'identité juive, je crois que ce qui s'est passé pour les juifs du monde entier, après la Shoah, mais surtout pour les juifs de Russie, c'est tellement évident. Après le rouleau compresseur de 40 et 50 années de régime soviétique, ça s'est réveillé de manière... Vous avez vécu ces années-là de manière inouïe. Mais même en France, nous avons vécu cela. Et ça se vit de plus en plus, d'ailleurs. Malheureusement, il y a des... Ça dérive parfois, mais quoi qu'il en soit, il y a un éveil qui est assez étonnant et qui se calcule à quel indice ? À quel indice on voit qu'il y a un retour au judaïsme ? En France. Le nombre des boucheries cachées. En tout cas, pour... c'est pas une blague. C'est très profond. Je sais pas, moi, je me rappelle quand j'ai débarqué en France, et bon, c'était la guerre, c'était soldat, mais juste après, eh ben, il fallait vraiment le vouloir. pour manger cachère à Paris. Et c'était grâce à la communauté de la rue Cadet, on l'appelait la branche cadette, qu'on pouvait manger cachère. Ensuite, il y a eu la communauté du Raoult-Wistein, de la rue Pavé. Et qu'on pouvait être enterré cachère. Il n'y avait pas de Trébois qui a dit ça, il n'y avait pas de vin cachère, il n'y avait rien. Et puis, aujourd'hui, les Juifs veulent être enterrés cachère. Alors, comme vous savez, on creuse sa tombe avec les dents, ça commence à la bouche. Mais ceci dit, pour revenir au sujet, c'est cette idée que, quel que soit le degré d'assimilation, il reste quelque chose qui est inexplicable. C'est parce que ça n'a rien à voir avec l'ordre des vertus réalisées, des commandements de la Torah. Rien du tout. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, du mérite d'être. Et c'est quelque chose d'ailleurs que perçoivent les non-juifs. Ils savent très bien qu'un juif même, complètement assimilé, il est plus juif qu'un archevêque. Il est Une fois, je disais à un de mes collègues chrétiens, enfin collègue en quoi je ne sais pas, mais enfin, vous comprenez, je disais, un juif même athée est plus d'Israël qu'un cardinal même pieux. Parce que ça existe les cardinaux pieux. Eh bien, et c'est assez stupéfiant de voir à quel point c'est une réalité qui est extrêmement mystérieuse, mais qui est comme ça. Et alors voilà, le Rav Peretz, ce matin, à la radio, mais ça s'est arrêté au milieu de la dracha, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a suffi pour retrouver la référence, a parlé de cette Mishnah, dans la Maseret Souka, puisqu'on parle du Beit HaMikdash, où, à Hoshon HaRabba, on faisait la fête de l'autel du Mizbeach, avec des halavot, qu'on allait couper en motza. Ça veut dire où descendra. Et alors le Rav a posé la question qu'avait posé, est-ce que c'est le Rav Etzraïm ? Une minute que ça me revienne, je ne vais pas me tromper. Je crois que c'est le Rav Etzraïm qui a posé la question. Il y a quatre espèces dans le loulav. Il y a l'espèce du loulav lui-même, la branche de palme, enfin le cœur du palmier. Il y a l'espèce de l'étrog, le cédra. Il y a le hadas, qui s'appelle la myrte.
Okay.
Le myrte. Qu'est-ce que c'est la myrte? C'est autre chose.
Le
myrte,
la
myrte. La myrte, d'accord. Et qu'est-ce que c'est la myrte? Non, c'est une sorte de, d'encens.
Dans l'encens. Voilà.
Et alors. Ou libératrice. Et alors. Le Midrash explique, l'étrog, ça représente la partie d'Israël qui qui possède la connaissance de la Torah et la pratique de la Torah. Le lulav, qui donne comme fruit la date, qui a un bon goût mais qui n'a pas d'odeur,